Et on s'en va à Tokyo. Voilà. C'est solennel quand on reçoit Frédéric Daigle, journaliste sportif à la presse canadienne. Bonjour Frédéric.
Bonjour messieurs, comment ça va?
ça va très bien, très très bien. Le Canada poursuit sa récolte. 10e médaille, cette fois-ci une médaille de bronze et ça s'est passé à l'aviron.
Absolument. Kaylee Filmer et Hillary Jensen, qui étaient championnes du monde 2018 aux deux de pointe, ont terminé 3e derrière la Nouvelle-Zélande et la Russie. C'est donc une 10e médaille pour le Canada, puis une 10e médaille toute féminine. Là, ça se poursuit. Ouais. À Rio, les femmes avaient remporté les 12 premières médailles du Canada et 16 au total. Peut-être qu'elles sont en quête d'un record ici à Tokyo.
Ça se pourrait. C'est bien parti, en tout cas. Très, très, très bien parti.
Oui, absolument.
Malheureusement, parlant des filles, moi, j'ai été un petit peu déçu du résultat. On peut jamais vraiment être déçu d'une 4e place. Quand même, 4e aux Jeux olympiques, c'est digne de mention. Mais le relais, 4 fois 200 mètres, arrive à court. 4e pour les Canadiennes, dont Penny Oleksiak, Catherine Savard, qui avait aidé à qualifier l'équipe en finale hier.
Oui, c'est ça. Catherine n'a pas nagé la finale, mais elle avait aidé justement le Canada à réserver sa place, on peut dire. Là. C'était donc Penny Oleksiak qui rate une chance là peut-être de se hisser seule au sommet des Olympiens avec une 7e médaille. Kayla Sanchez, Rebecca Smith et Summer McIntosh, 14 ans. Qu'est-ce que vous faisiez à 14 ans, les gars? Moi, je nageais pas aux Jeux olympiques.
Non.
J'y regardais, par exemple.
Oui.
Oui, mais bon, c'était pas... disons que je peut-être que j'y aspirais, mais pas pour l'été qui s'en venait. Alors, derrière la Chine, record du monde, les États-Unis et l'Australie. Écoutez, le temps que le Canada a réussi aujourd'hui, c'est le meilleur temps de l'histoire canadienne, de l'histoire du Canada. Mais alors, meilleur temps national, ça leur aurait donné la médaille d'argent à Rio. On peut pas vraiment demander plus
non.
À cette équipe-là de la façon qu'elles ont nagé aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'était bon juste pour une 4e place. Alors, ouais. C'est dommage de terminer comme ça, mais c'est quand même pas de mauvaise performance,
non.
Mais les ouais. 3 autres nations étaient meilleures aujourd'hui.
Hey, je te pose la question, parce que tout à l'heure, on parlait d'aviron, là, l'athlète, là, Laurence Vincent Lapointe, qu'elle
oui.
faisait, c'était canoë-kayak qu'elle faisait, elle, hein?
Est-ce oui, que, c'est du canoë de vitesse, oui.
Ouais, c'est quand qu'elle va prendre part aux compétitions? Parce qu'elle est une des favorites, elle, hein?
Oui, absolument. C'est au début. Là, c'est la semaine prochaine.
Ah, c'est la semaine
Je pense
prochaine.
Que c'est le 4 et le 5 en C1 200 mètres et le 6 et le 7 avec sa partenaire Vincent, j'oublie
okay,
son
double.
Prénom, là, l'Otavienne.
Okay.
En double, c'est ça.
C'est ça.
Alors,
parce que
c'est plus tard, c'est plus vers la fin des Jeux.
Puis ça, c'est celle là, pour situer les gens qui avaient été trouvés, qui s'étaient dopés. En fait, ils avaient trouvé
des produits dopants,
voilà, merci, dans son sang. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'elle avait été dopée de façon indirecte. Donc, elle avait été
oui.
blanchie.
Exactement, c'est ça. Mais ça l'a quand même privée de,
ouais.
de 6 mois comme faux d'entraînement.
C'était son
elle
chum.
Elle n'avait pas accès aux installations.
Son ex-chum qui s'était dopé, puis elle avait été contaminée de façon indirecte.
Oui, exactement. Alors, c'est. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est au jeu et puis elle a remporté là, plusieurs titres mondiaux. Je ne sais pas combien
oui.
exactement, là, mais
alors,
les chiffres varient d'une source à l'autre, là, de 7 à 12. Là, mais alors, c'est une des favorites pour
okay.
pour le canoë de vitesse qui fait son entrée. Il n'y avait pas de femmes avant les Jeux de Tokyo. C'est la première fois que les femmes vont faire du canoë de vitesse.
Mm-hmm.
Bon. On parlait tantôt d'une performance digne de mention des filles qui ont participé au relais 4 fois 200 mètres dans la piscine. Autre performance qu'il faut souligner, mais lui, il était vraiment déçu de la tournure des événements. Ça s'est passé en judo. L'Ontarien Shadi El Naas qui finalement a perdu son combat pour une médaille de bronze dans le tableau des moins de 100 kilos.
Oui, il était vraiment déçu, Shadi. C'est un gars, évidemment, qui s'entraîne à Montréal avec tout le reste de l'équipe nationale de judo. Il aspirait, là, il était tout prêt. À 35 secondes environ de la fin de son combat contre Jorge Fonseca, qui est quand même 2 fois champion du monde, là, c'est pas le dernier venu. Et c'est un petit moment de manque de concentration. S'est fait passer un wazari, s'est fait projeter par la hanche, là, par le Portugais. Qui a marqué l'unique point de ce duel. Puis
c'est quoi ça, un wasari, là? Parce que
on dit
ça depuis une semaine, puis on sait pas c'est quoi. Qu'est-ce que c'est,
ouais.
un wasari?
Bon, alors, La façon la plus simple de gagner au judo, c'est un hippon. C'est-à-dire que tu projettes ton adversaire, tu te fais tomber carrément sur le dos. Puis c'est un mix de vitesse, d'exécution et de force qui donne 10 points. Puis là, ça donne une victoire instantanée, même s'il reste encore 3 minutes et demie au combat.
Okay.
Un wazari, c'est quand il manque un des trois éléments. Soit la personne tombe pas carrément sur les épaules, ça manque de vitesse, c'est une projection ou un renversement, ou ça peut être une immobilisation au sol, mais c'est pas comme le triumvirat parfait.
Okay.
Alors ça donne un point. Et si tu marques un deuxième wazari dans ton combat, ça te donne un hippon et la victoire.
Ah, OK.
Alors,
c'est beaucoup plus clair.
Une très grosse marge. Et puis, la troisième façon de perdre au judo, c'est que tu peux recevoir des pénalités, soit parce que t'es pas assez agressif, parce que tu fais des
refus
fausses
de
attaques.
Okay.
Refus de combat, ce genre d'affaires-là. Si tu as 3 pénalités, tu perds le combat aussi.
Okay. Fait intéressant pour El Nahas, qui est d'origine égyptienne. Il est arrivé au Canada à l'âge de 11 ans et a commencé à faire du judo pour se défendre parce que il faisait l'objet d'intimidation à l'école.
Ah bon?
Et c'est comme ça qu'il a commencé à pratiquer son sport. Et finalement, il est aux Jeux olympiques. C'est quand même fantastique.
C'est pas sans rappeler l'histoire de Georges St-Pierre avec les arts martiaux mixtes.
Oui.
Que lui aussi était victime d'intimidation. Mais El Nahas était fâché après lui.
Oui.
Il était déçu d'avoir... Parce que, selon lui, là, il a commis 2 erreurs aujourd'hui. Il a commis une erreur contre Fonseca, qui est numéro 2 au monde. Et il a commis une erreur en quart de finale contre le Géorgien Varlim Lepartialani, qui est lui premier au monde et qui était favori de ce tournoi-là. Finalement, il termine 5e comme El Nahas, parce qu'il a perdu sa demi-finale et il a perdu son combat pour la médaille de bronze. Mais alors, il y a juste les 2 meilleurs au monde qui ont été capables de battre le Canadien aujourd'hui.
Okay.
Mais lui, ça le satisfaisait pas de savoir ça. Il disait, moi, je m'en venais ici pour gagner une médaille, puis je l'ai pas gagné, puis ça va prendre une couple de journées avant de me défâcher.
Bon, il y a un cas d'infection d'un perchiste américain qui a donné la frousse à l'équipe australienne d'athlétisme. Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là?
Oui, mais Sam Kendricks, qui est justement un perchiste sauteur à la perche, là, c'est pas un preneur de son pour
NBC. pour NBC.
Alors, c'est un sauteur à la perche qui a été qui a contracté la COVID. Les athlètes sont testés à tous les jours, alors son test est sorti positif. Immédiatement, lui, il a été retiré et mis dans un hôtel d'isolement là, que les Japonais ont prévu pour ces cas-là. Mais après ça, c'est toute l'histoire du traçage de contact. Et là, on s'est rendu compte qu'il s'est entraîné de près avec le sauteur à la perche australien, que lui était au même hôtel que toute l'équipe d'athlétisme d'Australie. Alors, les 63 membres de l'équipe australienne ont été mis en quarantaine dans leur hôtel. Et là, ils ont repassé une série de tests rapides et ils ont su, je pense, 3 heures ou 4 heures plus tard, que tout le monde était négatif.
Okay.
C'est quand même... Ils ont failli se retrouver avec aucun participant aux épreuves d'athlétisme, eux autres. Parce que Hendricks, lui, est sorti des Jeux. Là. Il est au moins pour 2 semaines en isolement. Et ça aurait été la même chose si on avait découvert des tests positifs au sein de l'équipe australienne. Parce que là, je veux pas m'avancer trop, mais je pense que s'il y avait des cas positifs, là, on les transférait à l'hôtel d'isolement. Il y avait des tests supplémentaires pour le reste de l'équipe. Alors, ces gens-là auraient manqué des journées d'entraînement.
Mm-hmm.
Possiblement des journées de compétition selon la nature des tests, parce que s'il y a des positifs, je pense que ça prenait 2 négatifs, mais je veux pas trop m'avancer, mais en tout cas, l'Australie là a failli se ramasser avec aucun participant en athlétisme, mais disons que c'était un peu la panique dans les médias australiens cet après-midi.
J'imagine, je comprends.
Et puis ça va tellement vite.
Mais vous autres, Frédéric, est-ce que vous êtes testé tous les jours ou une fois par semaine, les journalistes?
Alors,
et tout ça?
Voyez-vous, nous, la journée où on est arrivé au Japon, c'était considéré le jour zéro. Alors, les jours 0, 1, 2, 3, on a été testés.
Ouais.
Ensuite de ça, on est testé aux 4 jours.
Okay.
Mais les photographes, eux, parce qu'ils sont plus près des athlètes,
de
testés quotidiennement.
OK.
Alors,
les résultats arrivent rapidement?
Ben les résultats, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Là.
Ouais.
Quand on n'entend pas parler, c'est parce que
c'est
négatif.
Ouais.
Exactement. On a ce qu'on appelle un officier de liaison COVID ici. Là. Alors, nous, on a une des journalistes de la presse canadienne qui est le point de contact du comité organisateur.
Mm-hmm.
S'il y a un cas négatif, positif, c'est-à-dire ça va passer par notre collègue Donna Spencer de Calgary, puis elle, là, elle s'occupe de contacter nos patrons à Toronto et Montréal, et puis nous autres pour qu'on sorte de là, mais on a une application aussi qui permet aux organisateurs de nous suivre, là, faut laisser notre système Bluetooth branché en permanence au Japon avec cette application-là, ça leur permet de nous redresser rapidement, et on doit réserver notre place sur les galeries de presse pour les compétitions qu'on va suivre pour tous les jours des Jeux. Alors, ils savent où on va être.
Okay.
Ils nous demandent notre approbation quand on arrive dans les salles de presse. Alors, on peut pas être ailleurs. Comme aujourd'hui, je pouvais pas être ailleurs qu'au judo parce que c'est là l'endroit que j'avais réservé où je vais ma place.
Okay.
Puis je pourrais pas dire, ben, finalement, je vais aller au tennis.
Ouais, c'est ça. Donc, ils te suivent. Alors, ils l'auraient su immédiatement si t'avais
c'est
pas
ça.
Été au
ils
bon endroit.
Ils savent où venir me chercher pour m'isoler si jamais il y a un test positif qui sort.
Est-ce qu'on sait s'il y a des journalistes depuis le début qui ont été testés positifs?
Moi, on se demandait la question justement aujourd'hui, puis on a cherché un peu. On n'a pas trouvé de cas positif. Dans la préfecture de Tokyo, plus particulièrement la ville, là, c'était un peu exponentiel. Là, c'était un record aujourd'hui. Je pense qu'il y avait plus que 3500 cas positifs.
Ah oui.
Il y a une personne sur six à Tokyo qui a contracté la COVID là, présentement. Là. Alors, mais il n'y a pas de cas. On n'entend rien parler au niveau de la presse, même des athlètes. C'était le premier depuis que les Jeux sont commencés. Il y en a eu un petit peu avant l'ouverture des Jeux, les délégations qui étaient arrivées un petit peu plus tôt pour s'acclimater à la chaleur, s'entraîner. Il y en a qui avaient prévu des camps d'entraînement dans certaines villes du Japon. Ces premiers cas-là étaient au sein de ces délégations-là.
Ouais.
Sam Kendricks, aujourd'hui, c'est le premier athlète actif, là, entre guillemets, à être déclaré positif.
Bon, heureusement.
Alors là, on va voir si on espère que ça fera pas boule de neige.
Oui, c'est ça. Puis parce que ça a été limité heureusement là, dans son cas.
Ouais.
On verra.
Mais faut dire qu'on n'a pas de contact proche avec les athlètes. Hein? Moi, j'ai une perche de 2 mètres et puis c'est quasiment mesuré au ruban quand on arrive dans zone mix. On a toujours notre masque. Il y en a qui ont les visières. Les athlètes gardent leur masque dans la zone mixte. Oui. Alors. Moi, je me sens pas en danger à interviewer là-bas. Les athlètes. Mais évidemment, on le voit pas le virus. Hein,
donc
on est très prudent.
Bon, t'as une perche, tu pourrais peut-être aller remplacer le gars qui fait le perché.
Ouais, je peux. Il est un peu plus en shape que moi, Sam Kendricks, par exemple. Ma perche n'est pas assez solide pour
ça.
C'est ça.
Merci, Frédéric.
Salut, Frédéric.
À demain.
Merci, messieurs. À demain.
Frédéric Degg, journaliste sportif à la presse canadienne. Sur la 40, qu'est-ce qui se passe, Guylaine?